Fletcher connaissait l'histoire de Will Drake. Il ne pouvait pas la raconter car les mots accablaient celui qui les utilisait. Les mots étaient manipulés par ceux qui les lisaient. Si Fletcher avait voulu la raconter au plus simple, cette histoire de Will Drake, il aurait dit « Will Drake a étouffé son père et flanqué le feu à la baraque. Il a combattu dans le Pacifique et a eu la Bronze Star. Il a bénéficié d'une bourse d'études à la fin de la guerre. C'est un gars qui peut apprendre ce qu'il veut. Il est devenu père Brault et a rencontré Rolly Fletcher. Ils ont fait le mal et jamais le bien. » Fletcher était persuadé que si Will Drake ne l'avait pas rencontré, son destin aurait été différent. Il serait directeur de la police dans une ville moyenne ou professeur de droit dans une faculté estimable. En conséquence, Fletcher crèverait sans pitié le gars qui voudrait nuire à Will Drake. Drake, lui, pensait que Fletcher était le meilleur homme du monde, le plus droit, le plus sincère. Drake croyait en Fletcher comme en Dieu. La vie était une putain, c'était sûr, et on ne la baisait pas. Ce qui était sûr aussi, c'était que les hommes décidaient de changer de destin à leur insu le plus souvent.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ronnie Fletcher, surnommé l'Albinos, et son coéquipier Will Drake, flic à El Paso sur la frontière mexicaine, y ont la réputation non usurpée de ne pas trop s'embarrasser de procédures lorsqu'ils courent après les méchants. Il paraîtrait même qu'ils peuvent les faire parler grâce à de simples sacs plastiques de supermarché. Mal payés, ils ne rechignent pas à extorquer quelques liasses de dollars à ceux qui ont affaire à eux. Mais ils ne supportent pas de voir maltraiter les plus faibles. De drôles de chevaliers des temps modernes qui combattent le mal par le mal au volant de leur Ford Fairlane 57, surnommée elle le cercueil. Leurs prédécesseurs y ayant trouvé la mort, troués comme des passoires par des malfaisants qui ne payent rien pour attendre. Le dernier roman de Richard Morgiev, Cimetière d'étoiles, qui vient de paraître chez Joël Losfeld, démarre le 1er janvier 1963 sur la frontière mexicaine où Fletcher et Drake découvrent le cadavre d'un Marine en chaussettes, tué deux fois, semble-t-il, une première fois par le virus de la peste et la seconde d'une balle dans la nuque, signature possible de la mafia. Comme Cherokee, son précédent livre qui s'est déroulé en 1954, ce cimetière d'étoiles nous replonge dans les cauchemars d'une Amérique gangrenée par les complots militaro-policiers, le trafic de drogue, la corruption, alors que se prépare au Texas, justement, l'élimination du président Kennedy. Et c'est toujours un vrai plaisir de se plonger dans les récits de Richard Morgiev, qui, sur une impeccable trame historique, nous captive par son écriture érudite, alliant humour noir, poésie soudaine, raffinement et crudité. Bonsoir Richard Morgiev. Ça fait plaisir de voir une vraie personne autour d'une vraie table et de parler réellement autrement que par écran. Vous supportez comment ce temps?
Moi je suis quand même un privilégié parce que ça fait quand même 41 ans que je suis confiné, donc j'ai pris de l'habitude.
Est-ce que ça aide ou est-ce que ça complique l'écriture?
Non, je pense que moi je vis l'écriture en permanence comme une sorte de bagne formidable, donc j'écris 7 jours sur 7, 12 mois par an, sauf quand je me déplace ou sauf quand je suis avec vous. Mais non, ça ne me touche pas.
Alors nous avions parlé il y a 2 ans du Cherokee qui se passait en 1954 aux États-Unis. Celui-ci démarre le 1er janvier 63. On a toujours l'impression avec vos livres, Richard Morgiev, que en fait ils se nourrissent des précédents. C'est-à-dire quand on vous lit depuis longtemps, dans chaque livre, il y a les livres précédents. Et on retrouve des personnages, là, il y en a évidemment, mais on retrouve comme si il y avait quelque chose qui se remplissait. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez l'écriture? Chaque livre hérite de tous les précédents?
D'abord, c'est gentil de me dire que vous avez lu mes livres, et c'est vrai. Je pense que plus je vais... plus mon désir croît, est en expansion. Et en même temps, comme je vieillis, j'ai le souvenir du passé, de héros, par exemple. Donc il peut m'arriver de reprendre des noms de personnages pour les réhabiter de manière différente, ou comme des prières. Je pense que j'écris pour quelque chose que je ne comprends pas, qui est peut-être une sorte de besoin d'amour, de volonté de créer quelque chose qu'il soit beau. Mais en fait, je m'aperçois que je ne réponds pas à votre question.
Si,
parce que
moi,
je suis un cancre infernal.
Non, moi, ça me convient comme réponse.
D'abord, je suis très content d'être avec vous.
Ben, moi aussi, c'est réciproque. Alors, parlons de ce cimetière d'étoiles et de ces deux héros. On entendait dans le générique une petite lecture par notre camarade Eric, qui nous lit habituellement. Et on entendait que ces deux flics combattaient le mal par le mal. Mais en fait, moi, je les trouve extraordinairement habités par le bien.
Alors là, voyez-vous, Kathleen, ça me va droit au cœur, parce que ce livre, il est plutôt très bien accueilli, mais les journalistes ont tendance à décrire mes héros comme, en fait, des vilains, des méchants, des fous de méchanceté. Or, pour moi, c'est des gens vraiment bons. Hein, simplement, moi, ce que j'aime, parce que j'ai vécu, ma vie n'a pas été facile, je me suis souvent aperçu que des gens considérés comme de vrais salauds par la morale publique, étaient des gens bons, qui m'ont même sauvé. Donc j'ai été quand même marqué par ça, par attention au jugement hâtif. Et donc dans mes livres, je m'emploie quand même à faire vivre cette sorte de vérité qui est de dire, attention, celui qui prétend être bon, droit et juste, propre, ne l'est pas forcément. Tandis que ceux qui sont peut-être apparemment de gros méchants voyous, ne le sont pas forcément.
Alors Fletcher et Drake, on l'entendait, ce sont des vrais amis. C'est un, comme dans tous vos livres, Richard Morgiev, c'est un hymne à l'amitié, mais j'allais dire presque à l'amour. Parce qu'en fait, ces deux-là s'aiment comme on doit aimer les gens qu'on aime bien, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, la passion, c'est de la sème. Ils sont prêts à donner leur vie l'un pour l'autre, mais ils sont également prêts à donner leur vie en poursuivant le mal, en traquant le mal, en vengeant ceux qui ont fait, qui sont tombés par le mal. Ce sont des, en fait, ils sont obsédés par une idée de la justice qui, autour d'eux, n'existe pas. Parce qu'ils vivent en Amérique, cette Amérique que vous nous décrivez, surtout de ces années-là, ces années de mafia, ces années du McCarthyisme, ces années où l'armée joue à des jeux absolument invraisemblables pour lutter contre l'Est. Et en fait, ce sont les deux seuls, on a l'impression, qui ont un peu... qui trouvent tout ça très anormal.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des... C'est deux héros que j'aime profondément. Hein. Je les ai vus arriver vers moi et je me suis vraiment attaché à ce qu'ils vivent, s'expriment, etc. C'est des gens en fait qui se l'un et l'autre qui se méprisent, hein, et qui se méprisent au point d'estimer être des criminels, des ordures ou des gens pitoyables. Mais au fond, ils ont une idée de beauté, d'amour, de fraternité qu'ils ne peuvent exprimer, mais ils l'ont. Et c'est j'écris pour ça. C'est-à-dire que si je ne sentais pas arriver l'amour, l'amour vrai pour moi, ben je crois que j'écrirais pas en fait, parce que ça m'ennuierait. Et je pense que en plus, c'est amusant dans ces temps où quand même les gens sont quand même très bien pensants de montrer que une vérité, que ce n'est pas le costume de la bien-pensance qui fait les vrais actes héroïques, les actes de bonté, etc., etc., etc.
Donc, alors, ce livre, comme le Cherokee, comme United Color of Crimes, que vous aviez publié avant, c'est un livre, c'est un polar, on peut dire un polar, mais c'est également un western, mais c'est également un livre de morale, c'est un livre d'amour, c'est un livre d'aventure. Et évidemment, comme dans chacun de vos livres, Richard Mangiève, il y a des quantités de voitures qui ont toutes des noms.
La Packard Clipper de la morgue, ancienne ambulance rachetée par la municipalité à une entreprise en faillite, repeinte en noir, a stoppé en brinque-ballant. Avec ses phares rouges et sa sirène asthmatique. Ça faisait rire tout le monde, comme si les clients de la coiffeuse étaient pressés. La coiffeuse, c'était son nom. Elle allait sur ses 10 ans. Elle était énorme. On aurait pu y caser un bison sans problème. Pourquoi on l'appelait la coiffeuse, c'était une autre affaire. Par ici, à El Paso, les gens se faisaient tellement chier qu'ils cancanaient un peu plus que partout ailleurs. Trouvaient des surnoms aux gens et aux choses pour meubler leur ennui. Distraire le temps. La sirène se l'est fermée dans un bruit de mec qui avale sa langue. Booker Sparks a quitté le volant et s'est ramené avec sa serviette en cuir gonflée et usée par des années de mort violente. Il était maigre, de taille moyenne, et avait un visage tragique, aussi blême que celui de ses patients. Il allait bientôt partir à la retraite et s'était acheté une cabane en Idaho, pour mourir enfin seul, disait-il. Il en avait plus qu'assez de la lumière des néons et de l'odeur de la mort au formol. Fletcher a levé la tête. Là-haut, le satellite scintillait par moments. Ils l'ont tous imité, sauf le Maccabée. Aucun n'a pipé. Que dire ? Sparks a ouvert sa serviette. Il en a sorti une blouse blanche qu'il a dépliée, dévoilant une bouteille de champagne. « Veuve Cliquot », a-t-il dit. Pour la prononciation du français, personne dans le groupe n'avait mangé de camembert. Il a tendu des gobelets en carton à tout le monde et a débouché la bouteille. Il a servi. Fletcher n'aimait pas l'odeur du champagne, mais il ne voulait pas vexer Sparks. « À la mort !» a dit Sparks. Ils ont répété sa formule et ont bu. Le champagne était froid. La morgue, c'était le coin idéal pour ça. Sparks a resservi. Fletcher s'est laissé faire. Passé la première gorgée, il s'habituait à l'odeur et au goût. Et puis, on buvait pour boire lorsqu'on était lui et eux.
Richard Mangiève, pour ceux qui lisent vos livres, il n'y aurait pas votre nom sur la couverture. À l'écriture, on reconnaîtrait. Vous êtes arrivé à un mélange absolument jouissif pour le lecteur de vrais romans policiers, de gouailles, de crudité, de douceur, de raffinement. C'est une langue incroyablement tressée, j'allais dire, tressée avec des émotions différentes. Je ne connais pas dans ce registre des livres noirs d'autres auteurs que l'on reconnaîtrait comme ça dès la première page. Vous avez mis du temps avant de trouver votre voix, votre ton.
Alors, comment vous dire ? Pour moi, l'écriture, c'est sacré. Alors, je pense que plein d'autres écrivains doivent dire ce que je dis. Mais, voyez-vous, si j'avais l'impression d'avoir trahi ce que je dois écrire, d'avoir écrit quelque chose de laid, ou de sale, ou pour gagner de l'argent, je mourrais. Donc, en fait, je me suis... D'abord, je suis... Au départ, j'ai fait aucune étude, j'étais absolument inculte, mais j'avais énormément lu. Et je crois, c'était pour moi vital de lire, parce que je ne pouvais pas accepter ma réalité, qui était assez violente, honnêtement. Et donc, je crois que tout ce que j'ai lu, et Dieu sait si j'ai lu, s'est imprimé en moi. J'étais, voyez-vous, une sorte de 1000 voix, comme à 1000 pattes. Et en écrivant, et au fil du temps, toutes ces voix, qui m'habitent, se sont peu à peu conjuguées, intriquées, et j'adore, je prends un pied fou, par exemple, à faire des ruptures de ton, à mélanger l'impossible. Parce que souvent, voyez-vous, on voit des livres, c'est, il y a une majuscule, un point, etc. Mais en fait, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est quelque chose de, comment vous dire, comme une citadelle, comme quelque chose d'imprenable et que l'on prend puisqu'on le lit. Ah, je pourrais parler des jours, malheureusement.
Oui, mais j'ai vu que vous disiez qu'au début, quand vous avez commencé à écrire vos premiers livres, vous aviez écrit des polars, et puis qu'en fait, c'était presque pour faire un livre, pour gagner un peu de sous, pour montrer que vous pouviez écrire, puis vous n'étiez pas content. Et après, vous avez écrit beaucoup de livres très personnels, il y en a des fois absolument formidables, et puis tout d'un coup, vous êtes revenu à ces livres-là, qui, à mon avis, sont des livres politiques.
Alors, moraux,
des livres d'amour, des livres politiques, des polars, des westerns, de tout. Mais est-ce que vous avez finalement admis qu'il n'y avait pas de genre noble et de genre pas noble, que ce genre de livre noir permet et a permis à beaucoup d'auteurs, on parle même des Américains, de Dashiell Hammett, ouais, de parler profondément politique en donnant au lecteur une histoire passionnante à laquelle se raccrocher?
Alors là, j'ai une réponse. Merci de la question, parce que... Voilà. Donc, j'ai quitté le roman noir, le polar, appelons ça comme on veut, parce qu'en fait, j'étais écrasé par le genre. Et que je faisais de mauvais livres, parce qu'en fait, j'étais un bon gars, et je voulais remplir les... Vous voyez, de mettre tout dans le tiroir des flingues, etc. J'étais écrasé par le genre, et je me suis rendu compte, et j'avais raison, qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai fait autre chose et j'ai pris franchement tous les risques. C'est très mauvais pour ma carrière. Mais je me suis envoyé en l'air, des fois en pleurant, hein, parce que souvent c'était dur, parce que ces livres exprimaient ce que j'y vais, ce que j'y vais, c'était pas toujours formidable. Bref. Mais donc j'aurais pu, disons, vieillir et puis me créer ma propre petite académie, Richard Morgiev, écrit des livres, machin, voilà. Et je me suis dit, quand je me suis approché des 60 ans, là j'ai 70 ans, quand je me suis approché des 60 ans, je me suis dit qu'il fallait que je sois humble, sinon je finirais en vieux con, pardon pour le gros mot, en vieux con prétentieux, qui pourrait croire qu'il sait écrire. Donc je me suis dit, tu vas refaire des romans classiques, et surtout tu vas faire des romans noir, car c'est beaucoup plus difficile et il faut être beaucoup plus humble, puisque dans un roman noir, il faut qu'à la fin, globalement, on sache qui a tué le jardinier. Donc ça oblige Richard à être un peu moins mégalomane et à répondre déjà à des questions. Puis, vous l'avez dit superbement bien, ça me permet d'être en fait beaucoup plus libre et d'attaquer en fait, comme toujours, ça a été un peu mon credo dans la vie, de dénoncer ce que j'ai envie de dénoncer, sans carte de parti, sans faire obédience à machin ou à machine, mais à faire des livres qui sont sur plusieurs couches. C'est-à-dire que si on veut voir un peu la beauté, mais je sais qu'elle est là, si on peut voir un peu la critique sociale, elle est là. Et ça, je trouve que le genre noir est merveilleux pour ça.
Alors, on revient à ce cimetière d'étoiles et à nos deux héros, Drake et Fletcher, qui, avec leur camarade, le légiste Booker Sparks, finissent par comprendre qu'il y aurait peut-être un peu de politique et d'armée derrière ce crime du 1er janvier.
Ils voyaient tous les trois le topo. On avait tué un homme parce qu'il était porteur de la peste. Voilà ce qu'était l'affaire du marine mort à El Paso. Pas ordinaire. Sparks est sorti en ôtant ses gants et en les jetant dans la poubelle, imité par Drake qui s'est retourné vers Fletcher, de dos. Il a pivoté et s'est débarrassé à son tour des gants. Drake l'a dévisagé, s'est interrogé sur ce que cachait l'albinos. Parce qu'il cachait quelque chose. Seulement, le gars capable de faire parler Fletcher s'il ne le voulait pas, il était encore dans les couilles du futur antérieur. Lui et Drake ont retrouvé Booker Sparks dans son bureau. « Tu seras à l'abri du fléau de la langue », a-t-il récité. « Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. » Job, je crois. Il s'est emparé de la canette que lui tendait Drake. La première journée de l'année se terminerait dans une heure. Ils étaient un peu lessivés. « Comment vous racontez ça ?» dit Sparks. « Des gars qui tuent un autre gars parce qu'il est contagieux », a grommelé Drake. « Ça ressemble à rien de connu. » « Imaginons », a dit Booker Sparks. Il a lancé les dés. « Oui. » « Imaginons », lui a fait écho Drake. « Un labo infecte volontairement ou pas quelqu'un », a repris Sparks en jouant avec les dés. « Un marine, par exemple. Il l'infecte et le tue pour éviter la contagion. » Il a lancé les dés. Drake les a observés rouler et s'immobiliser. 3-1. Il a soupiré et dit « Tu vois un labo qui a pignon sur rue engager des tueurs pour buter un de ses cobayes ?» Il a lancé un dollar sur la table, suivi par Fletcher. « À moins, a-t-il continué, à moins que tu penses à ce genre de labo qui peut tout se permettre. » Il a pris les dés et soufflé dessus. « Ce genre de labo auquel tu penses, a dit Sparks, oui, c'est un peu mon idée. » Drake a lancé les dés en scrutant Fletcher qui se la fermait et venait de le dévisager comme s'il avait deviné combien il avait de poils au cul. Des labos dans des coins tranquilles avec des barbelés et des bidasses qui patrouillent, c'est ça, a poursuivi Drake, déçu parce qu'il avait sorti des nefles avec ses dés. Dans le genre, a répondu Sparks. Au moins, on sait qu'on risque notre peau, a dit Drake. Ils ont bricolé un virus multisouche, a poursuivi Sparks. Le diable nous préserve, il n'a pas fini sa phrase. Drake s'est levé ainsi que Fletcher qui a posé la question de confiance. « Tu as toujours ton 38, Booker ?»« Toujours. »« Mets-le sous ton oreiller. Si on rentre dans ta chambre, tire d'abord et appelle-nous ensuite. »« Allez, salut Booker. »
Richard Morgiev, ce qu'il y a de bien avec la radio, c'est qu'on se fait son film. Et d'ailleurs, il faut le faire, ce film, parce que l'un des deux flics, Will Drake en l'occurrence, est un passionné de films noirs. Et pour, pour meubler les longs trajets en voiture ou pour expliquer une scène, il nous récite un générique de film en général formidable. Et là, quand on pense à cette atmosphère que vous nous décrivez, on pense pas mal à La soif du mal d'Orson Welles. Hein. C'est un peu cette ambiance. Ambiance-là. Vous êtes aussi un grand amateur de ces films, de ces années-là, de ces beaux films américains.
Je crois que c'est... j'allais dire une bêtise, je me dis c'est impossible de ne pas aimer ces films, mais maintenant, c'est un peu idiot ce que j'ai dit. Oui, bah, bien sûr. Mais parce que c'est une culture simple et bête, et c'est formidable. C'est un peu, d'ailleurs, comme le roman noir. C'est simple, c'est bête, et c'est formidable.
C'est pas bête. Pourquoi vous dites bête? C'est pas bête.
Parce que, justement, moi, ce qui m'amuse, c'est de se dire, dans un genre qui est codifié, on va vraiment mettre absolument ce qu'on veut. On va créer la beauté, on va créer la joie, on va créer la fraternité, la mort, etc., etc. Donc, je pense, on ne peut pas échapper à ces films, mais Will Drake, lui, les récite des génériques de films, parce qu'il adore ça. Et il récite aussi en même temps des locutions latines.
On peut inventer parfois.
Voilà. Mais parce qu'en fait, c'est une sorte d'humour noir. Parce que c'est, en fait, c'est parler pour ne rien dire. Ces deux êtres, Rolly Fletcher et Will Drake, savent très bien qu'ils sont, comme nous tous, des coquilles vides. Et qu'ils n'existent, au fond, que parce qu'ils ont une position face au bien et face au mal. C'est trop simple, je pense, dans l'évolution de notre société. On a souvent considéré le bien ou le mal comme des bêtises, comme des choses sans intérêt. Or, en fait, moi, je pense que si on se tient debout, c'est par rapport à des choses aussi simples, bien ou mal. Et en tant qu'écrivain, j'essaie de faire vivre ça.
Alors, on parlait de film noir. Qui dit film dit bande-son, bien entendu.
Le blues, c'est fait pour les flics, s'est dit Drake. Ça va avec le flouz. Il ne savait pas que Fletcher se disait que le blues, c'était le liquide amniotique de l'enquête, sa bande-son. Ils se sont approchés du motel. Il n'avait pas l'air bien catholique. Plutôt une allure de recouvreur de prêts de la famille. Les gars qui passaient en bagnole les mataient, le doigt sur la détente. Marcher à pied au Texas, c'était quasiment un délit. De nuit, n'en parlons pas. Il y avait une affection du pied spécifique au Texas, un effondrement de la voûte plantaire. À terme, les Texans naîtraient avec des roues et une boîte automatique. Told Billy Lyon, let's take a walk. Stagger Lee won Billy Lyon money, and he took Billy Lyon studs and hat. Billy Lyon says, Stagger Lee, God, would you do me like?
said, please, please don't take my life. I got two little children and a poor little homeless wife. Would you do your old friend like that? Say you won all my money and you took my studs in half. Stagger Lee shot Billy Lyon and he fell down on his knees. He said, Lord have mercy, Lord have corner, and he look up and down, said I'd rather see you, Billy, 6 feet in the ground. Now the people start to weeping, and some of them begin to moan. Everybody was worried about poor Billy Lyon. The blues as they lay my body down. I want 10,000 women to be at my burying ground.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Richard Morgiève, la bande-son de votre livre. Ce livre qui démarre le 1er janvier 1963, il fallait que ce soit en 1963. C'était une année dont vous vouliez vous occuper, parce qu'elle compte beaucoup pour vous.
Oui, elle compte beaucoup pour moi. Enfin, elle compte beaucoup, je pense, pour des dizaines de millions de gens, puisque c'est l'année où le président Kennedy a été assassiné. Mais c'est, en fait, la mort de mon père a... était consécutive à la mort du président Kennedy. Et en 63, j'étais quand même très très mal parti, super mal parti. Et il m'a fallu pas mal de temps pour revenir, comme on dit dans un film. Je suis revenu, back. Et c'était en fait bien pour moi de situer vraiment cette année 63 et de l'écrire, en fait, à ma manière, de relier toutes les choses. Que, par exemple, j'ai écrit des romans policiers, certainement pour parler à mon père qui était mort, parce que c'est ce qu'il disait. C'est impossible, j'avais 13 ans quand papa est mort et quand Kennedy est mort. C'est impossible d'oublier ça. Autant la mort de Kennedy que celle de papa, encore plus. Donc, dans ce livre, la partie secrète, papa, bien sûr, ça n'intéresse personne, mais moi, ça m'intéresse. Et en fait... ce que je peux dire maintenant, c'est qu'en fait, mon père, on dit qu'il s'est suicidé. Au fait, aussi bien, il a pu être tué. Et c'est dans ce mystère-là, très lourd, que j'ai grandi. Et c'est un peu normal que j'écrive des romans noirs, peut-être.
Mais d'ailleurs, Richard Morgiève, quand je disais tout à l'heure que chaque livre qui arrive rassemble aussi ce que les livres précédents ont laissé dans nos mémoires, dans la vôtre aussi, dans votre écriture, ces deux flics, Fletcher et Drake, ils sont tous les deux orphelins. Ils ont tous les deux eu des enfances très dure. Et donc, en fait, ils sont là aussi pour raconter cette histoire. Et quand on vous lit depuis longtemps, on reconnaît les fils de l'histoire.
C'est beau ce que vous dites. Ça me fait un peu de... J'ai un peu honte, quelque part, parce que effectivement, c'est... Je m'en étais jamais rendu compte, voyez-vous. Je peux pas aller voir un psy, à part ma femme. Mais donc j'ai certainement beaucoup de choses que je ne peux pas dire, parce que je suis pas quelqu'un qui parle forcément. Et l'écriture, c'est le crépuscule, l'aube, le noir, la couleur. Dans le disque que vous avez passé tout à l'heure, on sentait bien ça, l'aube, le crépuscule, le noir, les formes, les spectres. Ah ouais, c'est... Donc j'ai écrit cette année 1963. En me disant bien que le mystère était ne serait jamais dévoilé. Pas plus concernant la mort du président Kennedy que concernant celle de mon père.
Alors ils ont des manies absolument délicieuses, ces deux flics. Donc Will Drake qui récite les génériques de films qu'il aime, qui invente des citations latines toutes plus baroques les unes que les autres. Et Ronnie Fletcher, lui, il cite beaucoup la Bible parce qu'il a été élevé par un grand-père qui avait la tête bourrée de Bible. Et il a une sorte de vision en permanence qu'un jour il a découvert dans un livre, un tableau de Philippe de Champaigne. Et pourtant, comme vous l'écrivez, il n'avait pas mangé de camembert. Donc... Et il est tombé raide dingue de ce tableau. C'est quand même un mystère, ce tableau de Philippe de Champaigne qui se balade en Amérique, sur la frontière mexicaine, dans l'année 1963.
D'abord, vous êtes merveilleuse, Kathleen, parce que vous trouvez que mes héros sont gentils.
Ah oui, moi je les trouve absolument délicieux.
Vous êtes la seule, et moi. Mais bon, alors.
On doit être un peu fou, alors.
Alors, concernant Philippe de Champaigne, alors, je vais vous dire, moi, qui ne suis pas sur la frontière mexicaine, mais dans le 11e, je n'avais jamais entendu parler de Philippe de Champaigne. Voilà. Mais quand je suis Rolly Fletcher, et en même temps Will Drake, je deviens Rolly Fletcher, et voilà. Et donc mes héros ont des envies, hein, qui ne sont pas mes envies. Et donc un jour, en étant Rolly Fletcher, qui est un personnage quand même très spécial, je suis tombé par un hasard total sur un tableau Ecce Homo de Philippe de Champaigne. Je ne savais pas que c'était un janséniste, ni rien. Mais ce tableau a parlé à Rolly, donc à moi. Et c'était le tableau qu'il fallait pour décrire ce que pensait Rolly Fletcher de son ami Will Drake. Rolly Fletcher a tendance à voir Will Drake comme un Christ, un ange. Et donc voilà, la littérature, la mienne en tout cas, se fait sans préjugés. Ça vient, alors bien sûr que je bosse, mais ça vient et mes personnages ont des envies. Oui, ils mangent ceci parce que c'est eux, c'est pas moi. Alors je vais pas faire mon Flaubert, hein, mais si on est ces personnages, les personnages soudain réclament ce qu'ils veulent.
Alors ce livre, on le lit dans une période qui nous atteint tous. Il y a une pandémie, on parle de virus. Eh bien, figurez-vous que dans Cimetière d'étoiles, il y a aussi des virus.
Drake a laissé sur la gauche Bridge of the Americas. Le pont construit en 59 et qui traversait le Rio Grande réunissait le Mexique et les States. C'est là que Fletcher a remarqué les chauves-souris qui se débattaient dans la lumière d'un réverbère. Et ça a fait tilt. Ce qui réunissait Tuele et Wendover dans le cheminement de ses pensées, c'était la base militaire de Dugway Proving Ground, Utah, à une centaine de miles de Tuele et Wendover, Utah. 800 000 acres par là. C'était là qu'ils avaient eu l'idée saugrenue des bombes à chauves-souris. Carrément. Des bombes pleines de chauves-souris portant chacune une minuscule bombe incendiaire. Pour foutre le fuego aux villes japonaises, aux innombrables baraques en bois. C'était un dentiste qui avait eu cette idée à la con. Lytle S. Adams, copain d'Eleanor Roosevelt, la femme du boss. Les bombes à chauves-souris avaient coûté un bras et on ne s'en était pas servi. Mais on avait construit un village japonais sur la base. Il existait peut-être encore, avec des geishas en kimono, des sushis et tout plein de bouddhas rigolards. Dugway Proving Ground, a dit Fletcher, ça te parle, Will ? Will a enfoncé son chapeau sur sa tête, l'a ôté. Bien sûr que ça lui causait, il n'était pas suisse. Après-guerre, l'armée de terre avait décidé que la principale mission du Dugway Proving Ground serait de tester les capacités de défense des States face à des attaques chimiques ou biologiques. Et pour les militaires, tester des systèmes de défense, c'était trouver des manières d'infecter l'ennemi, les Rouges. Au cas où la guerre nucléaire ne serait pas choisie, il s'agissait de leur pourrir la vie, par tous les moyens. Par exemple, avec des épidémies ingérables, la typhoïde, la tuberculose, la peste. Les mêmes militaires qui avaient imaginé détruire le Japon avec des chauves-souris avaient pensé faire crever les Russes par millions avec la peste. Ou plus certainement, un cocktail de virus, comme l'avait dit Booker Sparks. Plusieurs virus qui se déclenchaient les uns à la suite des autres, ou un virus qui en cachait un autre, ou des virus mutants. Ils avaient fait leur petite tambouille et il avait dû y avoir un problème. La grosse bavure. Des gars avaient été infectés. Pour une raison ou une autre, le marine avait levé le pied sans savoir qu'il était contaminé. La suite était connue. L'armée avait engagé des tueurs pour effacer les souvenirs, laver le carrelage et les vitres, repeindre tout ça en blanc. Et voilà, ni vu ni connu.
Richard Morgiev, on a l'impression parfois de vivre dans vos livres. Vous avez l'impression que ça peut se passer qu'aux États-Unis ou bien ces livres-là nous parlent de la France aussi?
Mais bien sûr, écoutez, je crois que c'est notre ex-président de la République, le président Hollande, qui a plus ou moins dit qu'il avait fait tuer des gens, ce qui est une... Moi, je vivrais mal à sa place de l'avoir dit, mais donc c'est lui qui l'a dit. Donc c'est déjà tragique et inadmissible. Un supposé ennemi de la France se fait flinguer parce qu'un président de la République. Donc, c'est rien par rapport, je pense, à ce qu'on peut vivre, etc., etc. Je pense que, moi, je vais aux États-Unis écrire des livres. Non pas parce que, par faiblesse, parce que j'aime historiquement ce pays, parce que je peux dire que j'ai survécu grâce à mes lectures aux États-Unis quand j'étais enfant. Mais je pense que nombre de choses qui sont écrites dans mes livres se passant aux États-Unis peuvent se passer ou se sont passées en France sans problème. La grande période des barbouzes sous le général de Gaulle a existé. Nombre de gens se sont fait assassiner pour des raisons d'État. Voilà. Donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait.
On ne pourrait pas écrire vos livres, vous ne pourriez pas les écrire en les situant en France quand même.
Non. Non, parce qu'en fait, alors, c'est un mouvement, comment vous dire, de l'âge. J'ai dit que j'écrivais des romans, je me suis dit que j'écrirais des romans noirs quand j'aurais 60 ans. Donc c'est moi, Richard, vieux, qui va dans le territoire de ma jeunesse. Vous savez, Kathleen, je peux dire que j'ai vécu grâce à Marie O'Hara.
Oui. Eh bien, voilà. C'est un de nos points communs, voyez-vous. Voilà. Moi aussi, je lisais Marie O'Hara. Voilà. Je ne sais plus si ça dit quelque chose aujourd'hui. Je crois à personne. Ça parle de chevaux et de grandes étendues.
Voilà.
En
d'amour,
Amérique.
Etc. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est grâce à ces livres, puis tous les autres livres que j'ai lus, que je suis, que j'ai vécu. Parce qu'on ne le dit pas. Souvent, on dit les conseils de lecture, il faut que vos enfants lisent. Mais c'est idiot. Si les enfants n'ont pas envie de lire, qu'ils ne lisent pas. Mais moi, je peux dire que lire, ça fait vivre. Voilà.
Voilà. Lire, ça fait vivre. Quelle belle chute pour cette émission, Richard Morgiev. C'était bien sûr un plaisir de vous recevoir pour parler de ce livre formidable qui s'appelle Cimetière d'étoiles et qui vient de paraître chez Joël Losfeld. Merci à vous.
Merci beaucoup, Kathleen. Merci beaucoup.